La féerie de Noël à Nouméa. Hier soir, plusieurs milliers de personnes se sont retrouvées place des Cocotiers pour le coup d'envoi des illuminations de la ville. Christopher Jugès était vendredi l'invité du magazine Transparence. Il a été interrogé sur la préparation du budget 2026 de la Nouvelle-Calédonie. Budget qu'il présente comme un budget de refondation. Extrait dans le journal. La colère des éleveurs en métropole, 2000 agriculteurs actuellement mobilisés dans toute la France, 43 actions en cours dans des blocages de portions d'autoroute. Une bonne nouvelle en provenance de Buckingham Palace. Dans une allocution télévisée britannique, le roi Charles III a annoncé que son traitement contre le cancer serait allégé d'ici quelques jours. Un nouveau titre de champion de Calédonie pour les joueurs de l'AS d'Imbéa Basket. Avec une victoire dans le match 2 contre Rivière-Salée, 102 à 76, les Dimbéens remportent le titre pour la 8e année consécutive. Et puis du rugby en métropole et la désillusion de Toulouse, battue à Glasgow lors de la deuxième journée de la Champions Cup. Les Toulousains s'inclinent 28 à 21 après avoir mené 21-0 à la pause. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal. Très bon dimanche. Le coup d'envoi hier à Nouméa de la fête des Lumières et des animations qui vont précéder Noël. Hier, la place des Cocotiers s'est totalement illuminée après le traditionnel décompte. Première soirée d'illumination qui a attiré plusieurs milliers de personnes qui ont pu découvrir les décorations lumineuses des arbres et massifs de la place des Cocotiers, du musée de la ville, des façades de l'hôtel de ville et même de l'île aux Sainte-Marie. Petits et grands ont également pu profiter d'un peu de neige.
C'est très bien, j'adore. Des lumières et que ça.
Qu'en penses du sapin ?
Il est très joli et il a très bien été décoré. Des boules de Noël, des guirlandes et de plein de lumières.
Il y a des grosses boules de Noël, il y a un ours, puis il y a un sapin avec de la neige.
Il y a des ours, un sapin, des lutins accrochés sur le sapin et des grosses boules par terre. C'est joli et c'est magique.
C'est joli, c'est beau. Il y a des guirlandes, il y a des gens qui sont costumés.
Il y a des guirlandes aussi de la fontaine. Et puis la fontaine aussi, c'est illuminée par des lumières colorées.
J'ai vu les sirènes. Il y avait des gens, ils marchaient avec des gros bois en dessous leurs pieds. Comment ça s'appelle déjà ?
Les géchachés. En bas, il y a le sapin de Noël où on dépose les lettres et puis il y a des stands.
J'aime bien et puis c'est nouveau. La neige. Il y a les papillons, j'aime bien aussi.
Il y a beaucoup de lumière et puis c'est bien décoré.
Voilà la neige !
Et le lancement des illuminations a eu lieu en présence du maire de Nouméa, Sonia Lagarde, mais aussi du haut-commissaire Jacques Billanf.
C'est magique, c'est ça la féerie de Noël. On est tous ensemble, tous réunis. Il y a de la neige, il y a des belles lumières. Il faut venir chaque soir, parce qu'il y a quelque chose de magique qui se passe sur cette place. Et cette magie, elle est extraordinaire. On y croit tous au Père Noël. Il va nous amener la paix et un beau pays pour qu'on vive tous ensemble.
D'abord, je remercie Madame le maire de Nouméa de nous offrir ce merveilleux moment. Je souhaite à toutes les Calédoniennes et tous les Calédoniens de très belles fêtes de fin d'année en leur demandant de faire en sorte que ce moment soit un moment de calme et de sérénité.
Madame le maire, vous avez promis une surprise alors ?
Ben, c'est la neige. Je plaisantais avec elle pour lui demander pourquoi elle avait mis le sapin sous le kiosque, si c'était pour le protéger de la neige. Et elle m'a dit, en effet, vous aurez une surprise samedi soir et la surprise est réelle.
Un des propos recueillis par Kalinda Boiscou, le marché de Noël artisanal de la Chambre des métiers de l'artisanat, lui, réouvrira ses portes au pied du Grand Sapin, place de la Marne, tout à l'heure à partir de 16h, l'occasion de trouver de l'artisanat 100% local qui met en valeur le savoir-faire de nos artisans calédoniens. Une trentaine d'exposants vous attendent de 16h à 21h jusqu'au 23 décembre. Et puis notez que chaque soir, jusqu'au 23 décembre également, des spectacles seront présenté au kiosque à musique. Au programme ce soir à 18h, le spectacle de correspondance de la compagnie de l'eau salée qui sera présenté aux Calédoniens.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Et on va rester dans l'ambiance Noël avec notre opération au cœur de Noël en faveur des plus démunis. Nous vous remercions très vivement de passer encore à la radio. Vous passez tous les jours, vous le savez, entre 7h et 19h à Radio Rythme Bleu, week-end compris bien évidemment. C'est aux 4 rues de Sébastopol. Vous pouvez aussi déposer vos cadeaux à Petit Dôme, c'est route de Lansvata. Merci encore pour votre générosité. Venons-en à l'actualité politique. Le congrès de l'UNI s'est tenu hier à Bourail en présence de Jean-Pierre Jaïway, Charles Wachetine, Claude Gambet, Louis Mapou pour le Palika, de Victor Toutougoro pour l'UPM ou encore de Steve Laigle pour l'UNID. Contacté à plusieurs reprises à l'issue de ce congrès, aucun des responsables de ces différents partis n'a souhaité communiquer. Les membres de l'UNI qui feront un bilan de ce congrès de Bourail demain dans l'après-midi lors d'une conférence de presse. Un budget de refondation marqué par une exemplarité en matière de finances publiques. C'est ainsi que Christopher Gigès définit le budget 2026 de la Nouvelle-Calédonie, qui est en cours de préparation. Il était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, Michael Juneski.
Le porte-parole du gouvernement, en charge notamment de l'économie, du budget et des comptes sociaux, précise qu'il a tenu beaucoup de réunions de concertation pour préparer ce budget 2026. La semaine prochaine, ce sera le débat d'orientation budgétaire et l'objectif est l'adoption de ce budget par le gouvernement avant le 31 décembre. Ce sera une première depuis 5 ans. Et s'il a tenu à organiser la concertation, c'est, dit-il, parce que chacun doit se retrouver dans le budget de la Nouvelle-Calédonie, même si des objectifs prioritaires ont été fixés dès le début.
Le premier d'entre eux, c'est une exemplarité en matière des dépenses publiques sur la Nouvelle-Calédonie. Des efforts sont demandés aux Calédoniens. Il faut que les collectivités calédoniennes et les formations politiques aussi fassent des efforts. On a un travail important qui est mis sur la masse salariale de la Nouvelle-Calédonie, où on va encore proposer la suppression de 100 postes, ou tout au moins geler 100 postes cette année. C'est un effort qui est considérable. On devait avoir une augmentation de plus de 700 millions de notre masse salariale, et on a eu un travail qui a été fait sur cette partie-là. On va réduire également le nombre d'établissements publics en Nouvelle-Calédonie en passant de 23 à 18. On a un travail sur les frais de gestion de notre territoire, sur les dépenses courantes où il faut montrer l'exemple. Je pense notamment aux voyages et aux déplacements des élus et des agents où on va diminuer par 3 le budget sur la ligne voyage.
Et au titre des voyages, il est décidé que les miles acquis à l'occasion des déplacements reviennent désormais à la collectivité. Ce budget 2026 sera forcément marqué par la situation économique catastrophique de la Nouvelle-Calédonie. Mais Christopher Gégès parle d'un budget de refondation avec une exemplarité en matière de finances publiques. C'est aussi un budget de relance avec quelques grands objectifs.
Dans la relance, on souhaite afficher quelques grands objectifs, par exemple passer de 7,2 milliards à 9 milliards les investissements publics, avec des investissements qui sont prêts à être engagés pour redonner de l'activité, pour redonner du travail aux Calédoniens via de l'activité économique. Un travail sur l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie. On a vu les chiffres récemment du tourisme qui se sont effondrés. Et donc là où on a fait des économies, on va le basculer justement sur cette restauration de l'activité pour augmenter fortement la partie promotion internationale du territoire. Il va falloir également que tout le monde fasse des efforts. Il va falloir que d'autres compagnies aériennes viennent en Nouvelle-Calédonie si on veut développer le tourisme. Et ça, il va falloir qu'on puisse l'entendre assez largement. Il va falloir qu'on fasse des packages all-inclusive comme les autres pour qu'on puisse développer. Mais on présentera ça avec les différents acteurs touristiques. Et je souhaite qu'on puisse avoir un soutien particulier. Là aussi, là où on a fait des économies, on le met sur la relance de l'économie, avec une dotation directement aux provinces pour les accompagner sur leurs dispositifs propres pour le soutien de l'économie.
Et dans le domaine de l'investissement, le gouvernement envisage des travaux sur les routes et les ponts, mais aussi des initiatives dans d'autres secteurs, comme par exemple le développement de l'e-santé. Autre piste de baisse des dépenses publiques, un plan d'évolution de l'administration calédonienne, avec la diminution du nombre des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie.
Il y a plusieurs dizaines d'années, la Calédonie, elle fonctionnait très bien, avec beaucoup moins de directions, avec beaucoup moins d'établissements publics, avec beaucoup moins d'agences. Quand on crée toutes ces structures, ça crée des dépenses de fonctionnement qui doivent être financées ensuite par l'impôt, et donc par le contribuable calédonien. Et donc là, on a fait un travail de ciblage, de fusion, de suppression pour certaines. Notre objectif est vraiment de diminuer un certain nombre de directions. Vous voyez ce qu'on a fait sur la fusion, notamment de la direction des affaires économiques avec le service numérique et avec demain le service du commerce extérieur. C'est une seule et même maintenant direction et avec une réduction des frais de fonctionnement. De toute manière, on n'a pas le choix. Je l'ai dit, redit, et ça me vaut des échanges un peu durs avec l'État, mais je n'augmenterai pas la pression fiscale sur les Calédoniens. Je suis en charge de la fiscalité, je n'augmenterai pas la pression fiscale sur les Calédoniens parce qu'on a tant d'économies de dépenses à réaliser. Il y a 15 ans, la Calédonie, elle fonctionnait très bien, avec beaucoup moins de directions et beaucoup moins d'établissements publics. Arrêtons de se faire plaisir politiquement à créer des structures pour que chacun ait sa présidence et revenons un peu dans une rationalité qui nous permet de faire des économies.
Et concernant les recettes, Christopher Gigès évoque une dynamisation par la relance économique. Un projet de budget qui se prépare alors que le Premier ministre a proposé un plan de relance et les deux sont complémentaires, relève le membre du gouvernement qui salue un effort substantiel de la part de l'État. Mais les responsables politiques vont faire des remarques sur ce plan de relance, notamment pour demander des subventions supplémentaires.
Il y a des choses, des éclaircissements à apporter sur ce plan, d'autres choses à rajouter. Et au niveau du gouvernement, on n'a pas voulu faire une réponse seule au Premier ministre. Et c'est toujours dans la même logique de travailler ensemble avec les collectivités et les formations politiques qu'on a réuni lundi matin et encore ce matin les parlementaires, les présidents d'institutions, les formations politiques pour essayer d'apporter une réponse commune à ce plan. Donc il n'y aura pas un courrier commun parce qu'on doit répondre ce week-end et le temps de faire signer tout le monde. En plus, il y a des institutions qui n'ont plus de président. Donc on va faire un courrier du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, reprenant les éléments des consultations qu'on a menées. Il y a une chose qui est sûre, c'est que la dotation pour 2026, elle est insuffisante. C'est-à-dire que là, ils nous promettent 100 millions d'euros supplémentaires, qui pourraient potentiellement être transformés en subventions si on est sage, mais qui est aujourd'hui insuffisante. C'est pour ça que j'ai pu indiquer, moi, dès le début, qu'on ne rembourserait pas les prêts si la dotation restait à ce niveau-là.
On ne rembourse pas les prêts si la dotation reste à ce niveau-là, déclare Christopher Gigès, qui rappelle que la Calédonie a 8 milliards à rembourser, c'est la moitié de sa masse salariale. Il faut donc que l'État nous laisse un peu de temps.
Ce qu'on dit à l'État, laissez-nous un peu de temps déjà pour retrouver des recettes fiscales qui sont correctes, laissez-nous un peu de temps pour que les réformes qu'on met en place puissent faire effet, laissez-nous un peu de temps pour savoir c'est quoi notre dette, parce qu'on a des discussions à avoir avec eux sur le niveau de la dette de la Nouvelle-Calédonie et le jugement du tribunal administratif qui a été rendu hier qui dit pas que l'État est coupable, parce que ceux qui sont coupables, c'est ceux qui ont brûlé les entreprises, qui ont gâché la vie de milliers de familles calédoniennes, mais l'État a une part de responsabilité reconnue juridiquement. Quand on a des discussions avec certains représentants de l'État qui nous disent c'est pas à l'État d'assumer les compétences qui sont pas les siennes, ok, mais néanmoins l'État n'a pas assuré une compétence qui était la sienne et qui a entraîné la situation économique dans laquelle on est.
Donc ce jugement du tribunal administratif, bon, qui est encore susceptible d'appel, mais vous allez l'utiliser dans les discussions avec l'État très directement?
Ah, très directement, oui, et de manière très franche. Mais ça ne va pas beaucoup changer les discussions que nous avons jusqu'à présent.
Christopher Gigès regrette ce rapport de force permanent avec l'État, mais il déclare que les dépenses prioritaires, ce sont celles des Calédoniens et pas les prêts à rembourser. Il relève toutefois le travail de la mission interministérielle et il affirme que les réformes devront être faites, mais en l'état, le plan de relance ne suffit pas.
Je suis membre en charge du budget. J'ai la responsabilité de présenter un budget pour faire fonctionner les collectivités calédoniennes et que la Nouvelle-Calédonie ne s'arrête pas. Je sais que j'ai 200 millions d'euros pour le moment de disponible. J'ai construit le budget de la Nouvelle-Calédonie sur la base de ces 200 millions d'euros pour le boucler. Par contre, il reste la partie comptes sociaux, RUAM, retraite, aide au logement, régime handicap, qui aujourd'hui, sur le niveau d'aide qui est proposé par l'État, on ne couvre pas. On va faire des réformes, on va baisser le déficit de trésorerie, mais ça ne suffira pas à ce stade. Donc ce qu'on va demander dans le courrier qu'on va envoyer, c'est que l'enveloppe 1 puisse être revue, que 2, le niveau de 100 millions d'euros de transformation de subvention puisse être revu du fait, déjà 1, du jugement du tribunal administratif et 2, de la solidarité nationale et 3, qu'on puisse avoir un travail qui est mené sur plusieurs années avec l'État. C'est une bonne première piste de travail qui mérite d'être approfondie.
Et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie essaie donc de trouver un consensus pour faire avancer les choses.
Une interview de Christopher Gigès qui sera rediffusée dans son intégralité ce soir, juste après notre édition de 17h45. Elle est aussi à retrouver bien évidemment en audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. Les feux de brousse évoluent favorablement à l'île des Pins et à Koumac. Le plan Orsec de niveau 2 pourrait même être levé dans le courant de l'après-midi. Plus de 2000 hectares ont été brûlés à l'île des Pins. Plus de 180 sont partis en fumée à Koumac. Le point avec le capitaine Alexandre Rossignol, officier de permanence de la DSCGR, la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques.
La situation évolue très très favorablement. Compte tenu de l'ampleur des deux sinistres, on a maintenu une équipe en surveillance qui sont actuellement faire les dernières mesures de drone avec les caméras thermiques pour lever les doutes sur les éventuels points chauds qui pourraient causer des reprises de feu. Donc là, toute la journée, ça va vraiment être une dernière reconnaissance et surveillance accrue des deux chantiers, que ce soit Koumac et l'île des Pins, pour éventuellement lever les dispositifs hors sec fin d'après-midi et passer feu éteint. On reste toujours assez prudent parce que c'est vrai que c'est une végétation un peu particulière et très dense, surtout sur l'île des Pins. C'est pour ça qu'on a quand même encore 12 sapeurs-pompiers de la sécurité civile militaire qui sont sur place avec les drones. Et puis dans Koumac, pareil. Donc on fait très attention parce que malgré les reprises qu'il pourrait y avoir avec les points chauds, on a observé depuis hier soir une recrudescence d'allumage volontaire, surtout sur Koumac. Il y en a eu 5 cette nuit avec 500 mètres carrés qu'on brûlait. Donc heureusement, les équipes étaient à moins d'un kilomètre et ont pu très vite intervenir.
Le capitaine Rossignol joint au téléphone par Kalinda Boicou. Il est midi et 15 minutes. On va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant. L'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite de votre journal avec Lionel Sabot.
Les agriculteurs poursuivent leur mobilisation en métropole. Ils sont plus de 2000 à protester contre l'abattage systématique de leur cheptel en cas de détection de la dermatose bovine contagieuse au sein de leur élevage. Avec des actions qui sont en cours un peu partout en France et notamment dans le sud-ouest, au sud de Toulouse, où des portions d'autoroute sont coupées.
En fait, on est revenu ici, c'était intentionnel parce que c'était le retour aux sources pour essayer de régler les mêmes crises qui se sont aggravées et les mêmes réponses toujours qu'on a de l'État qui sont rarement adaptées.
Nous, on voit que l'agriculture va très très mal. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est l'histoire de DNC quoi, et d'abattage systématique. Franchement, là, on a très peur de nos cheptels et de l'élevage dans le sud de la France.
Ouais. S'il n'y a pas d'annonce hein, et s'il n'y a pas d'avancée de volonté de communication, on peut rester. C'est le froid, on est habitué.
Cette colère des agriculteurs dépasse le seul cadre du sud-ouest. Elle dépasse aussi le seul sujet de la dermatose bovine. La preuve avec cette manifestation devant l'ancienne permanence de l'actuelle ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Marc Nicot est agriculteur dans le Doubs et membre du syndicat Coordination Rurale.
Qu'elle fasse son boulot, qu'elle aille négocier à l'Europe là-bas. C'est son boulot de faire ça. Si elle ne veut pas de négociation avec l'Europe, eh ben, on n'y arrivera jamais. Parce que ce qu'elle a peur aujourd'hui, c'est qu'on ait plus de... qu'on n'arrive plus à exporter nos produits, alors que les autres pays, eh ben, ils auront besoin de nos produits, les prendront.
Marc Nicot, membre de la coordination rurale, j'ajoute que face à la contestation des éleveurs, le ministre de l'Intérieur a demandé aux préfets et aux policiers et gendarmes de faire preuve, et je cite, de tact et de souplesse. À Dijon, c'est la consternation après l'incendie d'un collège situé dans un quartier sensible de la ville. Plusieurs départs de feu ont eu lieu à quelques minutes d'intervalle dans l'établissement. Établissement qui ne devrait pas réouvrir avant plusieurs mois, le temps évidemment de procéder à l'évaluation des dégâts et aux travaux de réparation. Le procureur de la République de Dijon indique qu'il a la conviction d'un lien entre cet incendie et le narcotrafic. Et puis en métropole toujours, 2500 personnes réunies cette nuit pour nous, en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Elles assistaient à la béatification de 51 jeunes catholiques tués par le régime nazi et désormais élevés au rang de bienheureux. Plusieurs évêques français et allemands étaient présents pour cette cérémonie. L'actualité à l'étranger avec cette nouvelle fusillade aux États-Unis. Les faits se sont produits il y a un tout petit peu plus d'une heure sur le campus de l'université de Brown dans l'état de Rhode Island. Un premier bilan fait état de 2 morts et de 8 blessés en urgence absolue. L'émissaire de Donald Trump pour l'Ukraine est à Berlin ce week-end. Il doit y rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky mais aussi les dirigeants européens. Rencontre au moment où les États-Unis poussent l'Ukraine à des concessions territoriales pour mettre fin au conflit avec la Russie. C'est justement depuis l'Allemagne que le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, on en parlait hier, a lancé il y a 48 heures un avertissement sur un possible élargissement de ce conflit en Ukraine. Il a évoqué un risque de guerre comparable à celle qu'ont enduré nos grands-parents. Déclaration qui fait vivement réagir Pierre Lelouch, ancien ministre et ancien président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN.
On a devant nous un paysage stratégique très complexe. Ce que je ne voudrais pas, mon inquiétude, elle est là, c'est qu'après avoir raté la guerre, au sens où on est entré dans cette guerre pour des raisons émotionnelles, sans avoir réfléchi aux conséquences, on est sur le point de rater la paix. Et rater la paix, c'est là qu'on rentre dans les scénarios de guerre. Donc, M. Routeux et ses petits camarades qui parlent de risque de guerre, ils sont en train de parler d'une situation qui va être extrêmement tendue le long de la ligne de séparation, instable, et qui risque d'entraîner une escalade. Si c'est ça qui se passe, on va être dans la difficulté.
Pierre Lelouch, invité d'Europe Weekend ce matin sur Europe 1. Des soldats allemands déployés en Pologne. Objectif, renforcer la frontière orientale de la Pologne face à une menace russe jugée grandissante. Des militaires qui vont pouvoir être amenés à participer à la construction de fortifications, au creusement de tranchées ou encore à la pose de barbelés. Et puis toujours à l'étranger, une bonne nouvelle en provenance de Buckingham Palace. Dans une allocution diffusée à la télévision britannique, le roi Charles III a annoncé que son traitement contre le cancer serait allégé dès l'an prochain. D'ordinaire très discret sur la maladie dont il souffre depuis 2 ans, Charles III a également encouragé les Britanniques à se faire dépister le plus tôt possible. Sarah Menet pour Europe 1.
C'est dans une adresse de plus de 5 minutes préenregistrée et diffusée dans le cadre d'une émission consacrée à la prévention du cancer que Charles III a annoncé la nouvelle.
Je suis aujourd'hui en mesure de vous annoncer une bonne nouvelle. Grâce à un diagnostic précoce, à une intervention efficace et au respect des prescriptions médicales, mon programme de traitement contre le cancer pourra être allégé au cours de la nouvelle année.
Pour rappel, le souverain de 77 ans avait été hospitalisé en janvier dernier pour un traitement lié à une hypertrophie de la prostate et c'est au cours de ce traitement que les médecins lui ont diagnostiqué une forme de cancer. Charles III n'a révélé ni le type de cancer dont il souffrait ni le traitement qu'il recevait. Alors ce week-end, la nouvelle de l'allègement de son traitement fait la une de la presse britannique. Bonne nouvelle pour Noël, titre par exemple le Daily Mail. Et dans les rues de Londres, eh bien, les Britanniques expriment leur soulagement.
Cela signifie qu'il a de bons docteurs, c'est une bonne nouvelle. Je suis sûre que ça va aller, c'est un homme extraordinaire, vraiment.
Comme la plupart des Britanniques, je lui souhaite évidemment bonne chance et un rétablissement rapide.
Alors, si la nouvelle rassure au Royaume-Uni, le journal The Times précise que cette nouvelle ne veut toutefois pas dire que le roi Charles III est en rémission, mais plutôt qu'il serait donc sur le chemin de la guérison. Londres, Sarah Menei, Europe 1.
Il est midi et 23 minutes, on va marquer une toute dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité sportive.
Mercredi 24 décembre, c'est le réveillon de Noël. Pensez à réserver votre table au restaurant Pizza and Pasta au 24 30 70 et retrouvez les suggestions spéciales Noël sur la page Facebook Pizza and Pasta.
Dès maintenant avec Google Pay, le paiement mobile débarque à la BNC. Enregistrez votre carte sur votre smartphone Android et payez avec votre mobile partout où vous allez. C'est simple, rapide et sécurisé. Vous allez adorer être client à la BNC. Plus d'infos sur bnc.nc. Banque de Nouvelle-Calédonie, siège social, 10 avenue du Maréchal Foch, 98 849 Nouméa CEDEX, RCS Nouméa 74B047688, plus coût de connexion selon votre opérateur.
Au cœur de Noël, une initiative de Radio Rythme Bleu parrainée par l'OPT avec le concours de la Croix-Rouge, de la Société Saint-Vincent de Paul, du Secours catholique et de la Table ronde française. Au cœur de Noël, c'est la part du cœur, la vôtre, la nôtre, pour que les enfants ne soient pas oubliés au soir de Noël. Au cœur de Noël, une belle histoire qui s'écrit grâce à vous. Tous les jours, de 7h30 à 19h, venez déposer à la radio aux 4 rue de Sébastopol vos cadeaux et jouets pour les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Au cœur de Noël, avec RRB.
RRB, première radio d'information.
La fin de votre journal, le sport avec Lionel Sabot.
Et de 8 pour les basketteurs de Dimbéa. Les tenants du titre ont conservé leur couronne territoriale à l'issue du deuxième match de la finale du championnat de Calédonie 2025, Michael Juneski.
Une victoire sans appel face à Rivière-Salée sur le score de 102 à 76. Après un premier acte mercredi où les Dimbéens l'avaient emporté 108 à 74. Un sacre donc pour clore la saison avec un air de passation de flambeau au sein du club. Le coach Benjamin Guy qui laisse son poste, vous l'avez entendu dans nos précédentes éditions, et des jeunes qui ont fait leur début dans le grand bain comme Noam Bouilly, moins de 17 ans, surclassé pour jouer avec les seniors.
D'abord on a pris du plaisir et ben voilà, c'était bien de jouer avec la team. D'être le plus jeune ça fait bizarre et aussi de jouer avec les plus gros, ben, on apprend et après on va prendre leur place, on va reporter le titre après sans eux.
Un passage de relais nécessaire pour assurer un bel avenir au club, nous a dit Yann Matelon, l'un des cadres de l'équipe.
On voulait vraiment finir en beauté parce que c'était la dernière aussi du coach, la dernière année du coach. On a réussi à intégrer pas mal de jeunes, dont deux qui sont issus du club depuis les premières catégories jeunes. Donc ils ont réussi à force de travail à intégrer l'équipe et puis on termine en beauté la saison après Tahiti. Déjà on essaie d'être bien discipliné, d'être rigoureux aux entraînements. assidus. Et puis ben, après ça paye. Hein. Ils sont, comme j'ai dit, ils sont au club depuis tout petit. Du coup ils nous ont vus évoluer aussi. Et puis ils savent à quoi s'attendre.
Là pour les célébrations donc des joueurs de Dimbéa à l'issue de ce titre décroché hier soir chez les dames, les joueuses du Mont d'Or, elles ont battu celles de Rivière-Salée 75-49 à l'occasion du premier duel. En effet, le match 2 pour les féminines est prévu demain soir, ça se passera toujours à la salle Omnisport de Lens-Vata.
Et ce dimanche, c'est la pétanque qui est à l'honneur au Mont d'Or avec la Nessian Cup.
Ouais, sur le boulodrome de Boulary, un concours en triplette mixte pour réunir les fans de la discipline, mais aussi intéresser ces dames à venir s'essayer au tournoi. La Ligue espère en effet susciter de l'engouement auprès du public féminin.
C'est bien, super. C'est difficile de faire venir une femme sur le terrain. Mais ça fait du bien de jouer comme ça. Ça nous déstresse un peu du travail surtout.
Ouais, c'est bien, c'est bien. Oui, voilà, c'est bon pour les filles et les femmes. Participe aussi au temps triplette.
Pour l'instant, ça se passe très très bien. C'est une belle préparation. En tout cas, nous sommes très contents de participer et de jouer ce grand challenge qui a été organisé par le club SPTT ici à la commune de Mont d'Or.
C'est une compétition comme les autres, hein, parce qu'on a l'habitude. Nous, tous les week-ends, on est en compète et puis après, c'est différents challenges. Mais sinon, c'est une joie de se retrouver avec tous les pétanqueurs du Sud. Voilà. On n'est pas très nombreuses, mais grâce à notre présidente qui va dans les îles et qui va dans le Nord pour promouvoir les femmes. Et du coup, de plus en plus, on a des nouvelles, surtout des jeunes filles qui viennent, qui reviennent, parce que on se retrouve, c'est une deuxième famille. Voilà.
Un tournoi organisé par l'SPTT Nouméa Pétanque. 42 équipes donc sont en lice dans ce tournoi.
Avant de voir l'actualité sportive en métropole et dans le monde, revenons sur cette épreuve pour le fun en natation disputée hier soir à Nouméa. La citronnade.
Un zeste de folie pour une épreuve en nocturne dans la baie des Citrons avec des jeux de lumière pour plaire aux participants. Les nageurs étaient munis de bonnets phosphorescents, se repéraient également avec des bouées lumineuses. Rendez-vous qui marquait en quelque sorte une fête de fin d'année. Antoine Dalia, président de l'association Dynamic NC.
Nos événements, à chaque fois, on essaie d'être convivial, grand public, avoir du haut niveau avec les meilleurs Calédoniens à chaque fois, de la concurrence, mais aussi avoir une course enfant du grand public pour... ceux qui ont un minimum de conditions physiques, qui puissent venir s'éclater sans stress, sans chrono, tout ça, pour se faire plaisir.
Et plus de 150 nageurs s'étaient donné rendez-vous pour participer à cette citronnade 2025.
Et hors du territoire, Mickaël, on parle toujours de natation, avec des podiums pour les Calédoniens au championnat de France junior.
Nos représentants qui répondent déjà présents pour cette compétition qui se déroule dans la ville d'Angers, dans le sillage de Maxime Grousset. Chrysander Cerda s'est imposé sur le 100 mètres papillon. Renzo Eden Mufana a décroché l'or sur le 100 mètres brasse. Et Yaron Nodange est devenu champion de France junior du 50 mètres brasse. La compétition se poursuit tout le week-end dans les bassins d'Angers.
Le sport sur la scène nationale et internationale. En football, le Paris Saint-Germain retrouve provisoirement le fauteuil de leader en Ligue 1.
Et le PSG qui a tout de même dû s'employer pour aller battre la lanterne rouge à Metz. Victoire de Paris 3-2 pour le compte de la 16e journée de Ligue 1 avec des Messins qui ont tenté de faire un coup d'éclat. Le PSG secoué a toutefois repris provisoirement, vous le disiez, la tête du championnat de France en attendant bien sûr le match de Lens qui jouera demain face à Nice. De son côté, Rennes a remporté le derby breton contre Brest sur le score sans appel de 3-1. Le stade rennais remonte ainsi à la 5e place de la Ligue 1. Enfin, le Paris FC s'est lui incliné contre Toulouse, 3-0. À suivre ce soir et demain, Lyon-Le Havre, Auxerre-Lille, Strasbourg-Lorient, Lens-Nice et enfin Marseille-Monaco comme dernière affiche à partir de 6h45.
Et sur les terrains de rugby pour finir, Mickaël, le stade toulousain s'est incliné en Écosse pour le compte de la 2e journée de la Champions Cup.
C'est ce qui s'appelle une douche écossaise pour Toulouse, battu à Glasgow 28-21, mais surtout après avoir mené 21-0 à la pause. Même si Antoine Dupont a confirmé sa bonne forme du moment depuis son retour de blessure, les Toulousains ont subi le retour des joueurs de Glasgow dans le match à partir de la 50e minute de jeu, dernière demi-heure de la partie qui a coûté cher à des Toulousains, encaissant coup sur coup 4 essais, laissant leur échapper la victoire. Les clubs français n'étaient d'ailleurs pas à la fête pour ce début de week-end. Dans la poule 1, Clermont a été battu à domicile par les Anglais de Sale 35-14. Dans la poule 3, défaite aussi du Stade Rochelais sur le terrain des Stormers sud-africains 42-21. Seul seul succès, celui des tenants du titre de l'Union Bordeaux-Bègles. Yoram Moefana et ses coéquipiers l'ont emporté contre les Scarlets 50-21. À suivre demain, les matchs Castres-Édimbourg, Toulon-Bath, Harlequins-Bayonne ou encore la section paloise qui se déplacera à Bristol.
Allez, un zeste pour la citronnade, une douche écossaise à Glasgow du grand Mickaël Juneski. Merci à Mickaël. Il est 12h30, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à 13h. Passez une très belle après-midi. À tout à l'heure.